Léon Blois, la fin de Don Juan. Ça fait du bien de causer avec un homme qui n'a qu'une tête, Jules Vallès. Et le misérable est mort, comblé de biens tel qu'il a vécu. Il n'eut même pas l'excuse d'être un dissipateur, un prodigue. Il était, dit-on, le premier du monde pour placer avantageusement ses capitaux. Enfin, il est mort, sans aucune infirmité, en pleine possession de lui-même, quoique très vieux, comme un patriarche d'avant le déluge. Cela me paraît un peu fort. Sans exiger assidûment le doigt de Dieu, à la façon d'un potache allaité par les bons pères, on voudrait tout de même, pour l'honneur de la justice, que l'agonie de ce malfaiteur eût été moins douce. Ainsi parlait un homme sans malice qu'offusquait l'insolente gloire du marquis de la tour de Pise. Ce personnage trop connu venait à peine d'expirer. Longtemps, on l'avait cru éternel. Né dans la joyeuse Angleterre, dès le commencement de l'immigration, quand Louis XVI avait encore sa tête sur ses épaules, un bruit public le disait vert galant encore aux environs de la nonantaine. Prodige peu vérifié sans doute, mais accrédité par l'enthousiasme de quelques disciples frileux qui avaient eux-mêmes dépassé 60 ans. Le fait est que le marquis Hector de la Tour de Pise lançait les rayons comme un ostensoir. Il passait pour indiscutable que des reines avaient autrefois crevé d'amour en entrant dans sa chambre et que tout un peuple d'Ariane sanglotait à cause de lui. Bien longtemps avant le célèbre beau vivier qui nous console, il avait dû soumettre sa personne en adjudication et même en action. De là, son opulence. Jusque dans les derniers jours, on vit les familles les plus hautaines payer très cher des coupons de son alcôve. Telle était du moins la légende universellement acceptée sur ce manche-cœur dont les boutons de culotte montaient en pendant d'oreilles sont regardés à l'heure présente comme d'inestimables joyaux. « Mon cher monsieur, répondit la sage-femme, mais vous n'y êtes pas du tout. Je n'ai point assisté à la mort de cette crapule, mais je peux vous assurer qu'il n'eut jamais diction plus cruellement châtiée. Imaginez tout ce qu'il vous plaira, vous n'arriverez jamais à cette horreur. Asseyez-vous donc sur ce fœtus qui vous tend les bras et prêtez-moi votre attention. J'ai ce matin l'humeur narrative. » Le marquis Hector était un bel homme, c'est certain, et il avait toute la mine d'un grand seigneur. Ses envieux n'ont jamais trouvé moyen de le nier. Il était si différent de la multitude qu'aussitôt qu'il apparaissait, tout le monde avait l'air de se ressembler. Il aurait pu se faire voir au public pour de l'argent, comme un vrai monstre. Il se contenta de se faire voir en particulier pour des sommes considérables, que d'ailleurs il plaçait avec un extrême soin dans les entreprises les plus sérieuses. On sait le flair de ce spéculateur qu'il manifestait au milieu des pires complications. Mais cela a d'un intérêt médiocre. À une époque où tous les hommes sont sur le trottoir, à peu près sans exception, le putanat de ce gentilhomme et ses concomitantes aptitudes financières n'ont rien d'inouï. Les deux choses vont si bien ensemble. J'ai beaucoup mieux à vous offrir, et c'est une horreur difficilement imaginable que je vous ai promise, n'est-ce pas ? Si votre soif d'une expiation ne s'abaisse pas après mon récit, c'est que rien ne serait capable de l'apaiser. Mais d'abord, savez-vous seulement ce qu'il avait à expier ? Non. Vous pensez, comme le premier venu, à l'existence plus ou moins odieuse d'un vampire exclusivement occupé de ses turpitudes, pendant près d'un siècle au travers duquel il coula tel qu'un ruisseau de putréfaction, n'ayant jamais regardé le visage de ceux qui peinent et qui souffrent. Point de vue banal, comme un prône, mon digne monsieur. Il s'agit de quelque chose de bien autrement super fin. Alors vous me faites sans doute l'honneur de croire que je me fous du secret professionnel comme doit faire toute sage-femme, de première classe bien entendu. Nous laissons cela aux médecins qui n'ont pas d'autre moyen d'éviter le bagne la plupart du temps. Eh bien, j'ai eu pour client le bel Hector, qui fut marié deux fois et qui tua au moins l'une de ses deux femmes, sans avoir besoin que je l'aidasse dans cette besogne. Il fonctionnait tout seul à ravir, et il n'avait recours à personne. J'ai tout bêtement accouché sa première, puis sa seconde, 10 ans après, vers la fin du règne de Louis-Philippe, comme j'eusse accouché des portières ou des filles publiques. Le marquis avait tenu à être seul avec moi dans l'une et l'autre circonstance. La première fois, nous amenâmes une espèce de chèvre-pied, sans yeux ni bouche, qui avait en guise de nez une espèce de membrane flasque et pendante, que je ne vous décrirai pas, homme impressionnable. La tour de Pise, douée du sang-froid des morts, s'empara de l'avorton avant que j'eusse pu m'y opposer, et l'offrit au baiser de la mère qui en mourut 2 heures après. Le second enfant du marquis eut 2 têtes sur un fuseau de corps à peu près sans jambes ni bras, et c'était une autre édition de la même image. Oh, cette fois, l'accouché ne put rien voir. Je roulais dans mon tablier la petite abomination et m'élançai hors de la chambre. Je perdis ainsi la clientèle du noble seigneur, mais j'avais deviné beaucoup de choses. Et plus tard, oh, j'en appris d'autres encore. Vous êtes persuadé maintenant, continua la terrible matrone en baissant la voix de manière étrange, que je viens de vous raconter le crime et le châtiment. Voici que déjà se détend la fibre des reins de votre implacable justice, comme se détendraient les boyaux d'une guitare dans laquelle 30 chiens auraient pissé. Or, vous y êtes moins que jamais, entendez-vous. Dans notre métier, on est précisément à la bouche de l'égout, où on en voit sortir de telles choses, qu'il devient à la longue difficile de s'étonner. Pourtant, monsieur, l'homme dont nous parlons m'a étonné et m'étonne encore jusqu'à l'épouvante. S'il n'y avait eu que ce que vous venez d'entendre, cet homme ne serait en définitive qu'une horrible canaille de plus dans la foule de nos canailles et mériterait à peine qu'on le mentionnât. Mais, je vous le répète, c'est autre chose. Et la punition vous fera trembler si vous êtes capable de la comprendre. Avez-vous remarqué la bizarrerie de l'identité du phénomène monstrueux se reproduisant à 10 ans d'intervalle avec 2 femmes légitimes épousées pour leur argent, cela va sans dire? Je suis persuadé que l'expérience aurait indéfiniment donné le même résultat. Pour parler net, le marquis était un idolâtre, un fervent et rigoureux idolâtre, intérieurement configuré à la ressemblance de son Dieu et qui ne pouvait que la reproduire extérieurement dans ses tentatives de progéniture. Il adorait chez lui, dans un oratoire mystérieusement éclairé, cette partie de son propre corps que les prêtres de Cybèle tenaient autrefois en si grand honneur. Il l'avait fait mouler sur lui-même par un ouvrier fort habile, et l'objet, exposé dans une sorte de tabernacle, recevait chaque jour les obsécrations de ce corps immense que les mondains croyaient un viveur, absolument comme les petits cabillots de l'internat ont avalé que le bouddhiste Charcot était médecin. On ne saura jamais le nombre des gens qui sont autre chose que ce qu'ils paraissent aux yeux des contemporains. Cela, monsieur, c'était son vrai crime, l'attentat suprême pour ceux qui savent et pour ceux qui voient dans la profondeur. Tout le reste en découlait. Et voici maintenant l'expiation qui dura 10 ans jusqu'à la veille de sa mort. Chaque nuit, un très grand et très beau vieillard que les plus fiers avaient aimé et que connaissaient maintenant toutes les rôdeuses, était invariablement raccroché dans l'ombre à la dernière heure des retapes. On savait son goût et le dialogue s'engageait, aussi crapuleux que possible du côté de la femme, tout à fait humble du sien, car il tenait à jouer le rôle d'un sale client consumé d'inavouables désirs. La femme, alors, s'appuyant au mur, lui tendait alternativement l'un et l'autre pied, et l'octogénaire vautré sur le sol, quelque temps qu'il fit, léchait en grognant d'extase le dessous de ses bottines. Telle fut la dernière exigence du petit dieu, de ce vainqueur que trois générations d'imbéciles égalèrent à Don Juan.